maintenant, enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce qui est intéressant, c'est surtout dans les villages que ça se vit. Lorsque le matin, à 5 ou à 4 heures, on fait cette procession de la résurrection du Seigneur, et que le lundi, après la Galilée, on fait encore la procession, très souvent, on regarde dans toutes ces choses et on voit la fête. Mais est-ce qu'on comprend le sens de cette fête? Je bénis le Seigneur parce qu'ils sont nombreux ceux qui comprennent. Il y a aussi ceux qui ne comprennent pas. Mais jusqu'à ce que l'année suivante arrive, Dieu permet à quelques-uns encore de comprendre pour s'ajouter au nombre de ceux qui avaient déjà compris que c'est leur propre résurrection qu'ils sont en train de danser. C'est leur propre joie, c'est leur propre bonheur, c'est leur propre vie, c'est leur propre grâce, c'est leur propre santé qu'ils sont en train de danser parce que Dieu l'a résolu ainsi. Alléluia. Nous avons lu 3 textes. Et le thème de ce jour, c'est « Dieu l'a ressuscité en brisant les liens de la mort ». Dieu l'a ressuscité en brisant les liens de la mort. Et nous trouvons ce thème-là dans Actes chapitre 22, chapitre 2, le verset 24. Mais nous lirons à partir du verset 23 pour arriver au verset 24, parce que c'est à partir du verset 23 qu'on comprend mieux. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Les choses sont étonnantes quand même. La mort, c'est la mort. Chaque chose a son nom et chaque chose joue son rôle. La mort, c'est la mort. La mort emporte quelqu'un. La personne reste dans le tombeau. Et donc, la mort a pu avoir sa personne, n'est-ce pas? A pu avoir sa proie. Et donc, la mort se réjouit parce que chaque chose a son rôle et quand chaque chose rentre dans la possession de ce qui lui appartient, c'est la joie. C'est la même chose. Quand nous sommes malades, quand nous sommes guéris, c'est la joie. Quand nous avons un examen, que nous réussissons, c'est la joie, ainsi de suite. Alléluia. Donc, la mort se réjouissait de la chose. Malheureusement, sa joie a été très courte. Celui qui pensait que il était en train de damner le pion à Dieu. J'ai nommé qui? Qui pensait qu'il était en train de damner le pion à Dieu. Qui pensait qu'il était en train de remporter la victoire sur Dieu. Il n'a eu que combien de jours pour se réjouir?
2 jours.
Parce que le 3e jour, très tôt le matin, la Bible nous dit que les femmes se sont rendues, ce que nous avons lu dans Luc, qu'elles se sont rendues au sépulcre. Nous connaissons, nous, les mamans. J'étais partie à un enterrement et ça se voit partout. Maintenant, les cercueils sont fermés. Mais même cercueil fermé, la maman était assise en train de chasser les mouches. Elle pleure, quand une mouche vient, elle chasse. Donc, tu chasses la mouche par rapport à quoi? Et ça c'est aussi, je ne sais pas si ça dit, c'est une vertu, mais ça aussi, ça fait partie de la femme. De s'occuper de l'homme qui est son enfant. Même si c'est son mari, c'est son enfant. Même si c'est son frère, c'est son enfant. De s'occuper de lui jusqu'à même quand on le met dans la tombe. Et vous savez, les Juifs ont vécu plus de 400 ans en Afrique. Donc leurs coutumes ne sont pas trop différentes de nos coutumes. Ils ont aussi à embaumer les corps comme nous embaumons nos corps. Et lorsque quelqu'un meurt, on doit l'embaumer avant de l'enterrer, mettre tous les parfums, les aromates et autres. Il se trouve que pour Jésus, il est mort à la veille de sabbat, c'est-à-dire il est mort le vendredi à 18h. Il faut vite l'enterrer avant que le samedi ne naisse, parce que le samedi, c'est sabbat où on ne doit rien faire. Qui peut aller écraser quel aromate pour venir l'embaumer? Qui peut courir pour aller à la maison, même ce qu'il a déjà écrasé là, pour venir l'embaumer? D'ailleurs, même son corps était rempli de sang. On ne reconnaissait même plus son visage. Souvenez-vous, quand la femme est venue verser le parfum sur ses pieds, les disciples ont dit, pourquoi est-ce que, et si on vendait ce parfum? Jésus a dit, ce qu'elle est en train de faire, cela sera raconté partout, cette bonne nouvelle sera annoncée. Laissez-la déjà embaumer mon corps, ne l'embêtez pas. Parce que vous n'aurez pas le temps de le faire. Alors, effectivement, ce jour-là, ce premier jour, les femmes sont parties au tombeau pour embaumer le corps qui était là depuis le troisième jour. Elles arrivent très tôt ce matin, le corps n'est plus à sa place, alléluia. Elles voient que la pierre est roulée. Elles étaient toutes étonnées. Ici, Luc ne nous donne pas leur étonnement de voir la pierre rouler. Mais il nous donne leur étonnement de voir que c'est des anges. Des anges qui leur apparaissent éclatants de lumière. Alors, ils étaient effrayés, mais les anges leur ont dit, ne vous effrayez pas. Et puis, qu'est-ce que vous faites ici? Vous cherchez quelqu'un qui est vivant, vous le cherchez parmi les morts. Il n'est point ici. Souvenez-vous de tout ce qu'il vous avait dit quand il était encore avec vous en Galilée. Souvenez-vous de ses paroles, qu'il va mourir. Les gens vont le livrer, les impies vont le tuer. Qui sont ceux qui l'ont livré? C'est son propre peuple. Et les impies, c'est qui? Les Romains. Et qu'il va mourir, mais le troisième jour, il va sortir de la mort. Alléluia. Et dès qu'ils ont dit cela, les femmes se sont souvenues de toutes ces paroles. Il y a longtemps, ils leur disaient cela. Mais eux tous ne comprenaient pas. La preuve, quand les femmes sont allées trouver les disciples et qu'elles ont parlé de cela, la Bible dit que les disciples n'ont pas cru. Ils ont pris cela pour des rêveries. C'est-à-dire, ça c'est parole de femme. Chez nous, on dit, ça c'est la parole de belle-mère. La belle-mère, tout ce qui lui vient en tête est dit. Donc ça c'est parole de belle-mère. Mais néanmoins, Pierre, ici, on ne mentionne pas le nom de Jean. Pierre a couru et il est allé la constater. Luc nous dit que quand il a vu cela, il ne savait que penser de cela. Et puis, il est rentré chez lui. Des éléments vont retenir notre attention. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe que nous avons lu, nous mettons cela aux côtés du livre de Luc. N'est-ce pas? Actes des apôtres. Pour revenir sur l'évangile de Luc, nous trouvons un premier élément. Le premier élément, c'est que tout ce qui s'est passé a été déjà arrêté par la préscience de Dieu. C'est pourquoi je disais, celui qui a voulu rivaliser avec Dieu a pris sa honte. Parce que le diable pensait que Jésus était venu pour payer le prix. Jésus était venu en rançon pour l'apaiser lui, dont lui va remporter victoire sur Dieu. Mais ce sont des choses que Dieu lui-même l'avait arrêtées. Ce sont des choses qu'il avait déjà prévues, que le Fils de Dieu va venir mourir pour que l'homme ne meure pas, pour que l'homme ne souffre pas, pour que l'homme ne connaisse pas la souffrance de l'enfer qui est la seconde mort. Voici le programme de Dieu depuis l'Ancien Testament. Dans Genèse, quand Adam et Ève ont péché, la punition de Ève, Dieu a dit à Ève que le serpent va te mordre le talon, mais toi tu vas l'écraser, ton fils va écraser, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Bien-aimé, la femme n'a jamais eu postérité, je crois que je l'ai déjà dit ici. Une femme n'a pas de postérité, c'est l'homme qui a sa postérité. Bon, aujourd'hui on dit la femme peut donner son nom. Nous tous on connaît, nous sommes des Ivoiriens. C'est l'homme qui a une postérité, c'est l'homme qui donne son nom, c'est la postérité de l'homme. Nous sommes tous les enfants des hommes. Mais la Bible dit la postérité de la femme. Et les musulmans le disent bien. Le fils de Marie. Celui dont le père n'est pas humain. Celui qu'on ne peut pas nommer le père. Les juifs, quand ils arrivent devant le nom du père de Jésus, se taisent. Quand ils lisent la Torah, à un moment, quand ils se sont tués, c'est qu'il y a le nom de Dieu là-bas. C'est un nom trop grand pour eux, ils ne peuvent pas le prononcer. On appelle ça le tétagramme divin. Ils ne peuvent pas le prononcer parce que c'est un nom qui est lourd. Ça, c'est le nom de Jésus. Le Père de Jésus. Et donc, pour reconnaître Jésus, on dit le fils de la femme, la postérité de la femme. Dieu a dit déjà que sa postérité va écraser la tête du serpent. Marie va souffrir, mais son enfant va remporter la victoire sur la mort. La chose avait été déjà prévue, Dieu l'avait déjà arrêtée. C'est pourquoi Esaïe dit que ce sont des choses que Dieu a arrêtées et Pierre aussi a dit aux Juifs, cet homme, vous l'avez livré selon la préscience de Dieu. Une chose déjà arrêtée. Et les anges disent aux femmes, souvenez-vous ce qu'il vous disait quand vous étiez quand il était encore avec vous en Galilée. Il vous disait qu'il devait mourir. Il le savait parce que c'est une chose déjà arrêtée. Mourir et ressusciter. Il savait qu'il venait pour mourir, mais la mort n'allait pas avoir de pouvoir sur lui. La mort ne pouvait pas le retenir à vie. La mort ne pouvait pas le retenir à toujours parce qu'il allait sortir de là. Alléluia. Voici la première vérité. La seconde vérité que Pierre était en train de faire comprendre à ces Juifs qui l'ont arrêté et qui avaient à dessein de le tuer. Pourquoi? Simplement parce qu'il était, c'était à la Pentecôte. Il était en train de donner sa première prédication et il a été arrêté. Mais dans cette prédication, il a fait comprendre. Il dit, homme israélite, écoutez ses paroles. Jésus de Nazareth, un homme éprouvé, approuvé, un homme approuvé de Dieu parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opéré par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, lui ayant été livré par le conseil déterminé de la préscience de Dieu, vous l'avez pris. Et par des mains impies, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir. La deuxième des choses, c'est que ce Jésus a été mis à mort par un complot. Le complot partant de son peuple jusqu'à des impies. Les impies, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est les Romains. Le conseil qui dirige, on pourrait dire la présidence en ce temps-là, si on peut s'exprimer ainsi, qui dirige toute une nation, s'est réuni et a livré Jésus. Comme eux-mêmes ne peuvent pas le tuer, eux-mêmes ne peuvent pas. Ils sont sous la couverture des Romains. En plus, ce n'est pas par lapidation que Jésus devait mourir. Parce que si c'est eux qui doivent le tuer, c'est de le tuer par lapidation. Les Juifs tuent par lapidation. On doit le lapider jusqu'à mort. Mais dans leur loi, il ne leur est pas permis de le faire pour Jésus. Parce que ce qu'ils ont résolu, c'est d'humilier Jésus jusqu'au dernier degré. Donc cette humiliation, c'est la mort de la croix. La mort des bandits, la mort des brigands, la mort des impies, la mort des personnes qui sont méchants et mauvais, mais aussi la mort par les mains des impies. C'est-à-dire, les Juifs, c'est eux qui connaissent Dieu. Et puis, c'est des Romains qui te tuent. C'est la plus grande des hontes. C'est ce qu'ils ont résolu faire. Et c'est pourquoi ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont tué. Mais pour que les Romains puissent le tuer, il faut qu'eux, ils le livrent. Et ils l'ont livré. Ils l'ont livré et il est mort. Ça, c'est la deuxième vérité. C'est que c'était déjà arrêté que c'est par les mains des impies qu'il allait mourir. C'est la deuxième vérité. La troisième vérité, c'est que notre victoire, c'est que la mort n'a pas pu le retenir. Dis alléluia avec moi. C'est que Dieu l'a ressuscité. Dieu a brisé les liens de la mort. Alléluia. Bien, nous attendons quoi? Face à cette troisième vérité, nous attendons quoi? Qu'est-ce qu'est notre espérance? C'est la vie que Jésus a et qu'il nous a donnée à jamais. Ce Jésus, cet homme saint, vous l'avez pris, vous l'avez livré, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Mais il est ressuscité des morts. Il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas l'arrêter là. Mais en quoi est-ce que cela se vérifie dans ta vie? Ou encore, quel est le bénéfice que tu reçois de la résurrection de Christ? Vous savez, quand les femmes sont allées au tombeau, quand elles ont vu les anges, elles ont eu peur. Mais les anges leur ont parlé et elles étaient dans l'assurance. Quand les anges leur ont dit, rappelez-vous, elles se sont rappelées de ces paroles. Bien, mais quelles paroles Dieu ne t'a pas encore données qui ne te rassurent pas? En quoi est-ce que tu as encore peur? Qu'est-ce qui t'amène à hésiter quand tu dois entreprendre quelque chose? Quand tu as un projet, pourquoi est-ce que tu t'effraies? Tu te poses des questions, tu as peur, tu as peur d'avancer. On nous disait tout dernièrement que en face de chez nous, il y a un grand immeuble qui est construit. Le monsieur, il a fini de construire, il a fini de meubler, il est mort. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, même des chrétiens, je ne parle pas des gens, je vais parler des chrétiens, qui se disent que, est-ce que ce que je suis en train de faire, je vais finir ça? Ou bien, quand je vais finir, je pourrais en bénéficier. Mais si toi-même, tu as limité ta vie, tu as limité ta chose. Si toi-même, tu as dit, tu ne peux pas aller jusqu'au bout, ça, c'est toi que ça regarde. Si toi-même, tu as déjà peur, c'est toi que ça regarde. Mais les femmes, quand elles ont entendu les anges, elles se sont rappelées des paroles qui ont été dites. Elles n'ont pas eu peur. Elles se sont dites que c'est la vérité. C'est la vérité. Jésus leur avait déjà dit cela. Et si on ne le voit pas dans la tombe, ceux qui sont venus nous dire ces choses, ils sont venus de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous annonce la bonne nouvelle. Les anges ici ne l'ont même pas dit d'aller dire aux autres. Mais quand ils sont partis, ils ont dit. Parce que ce sont des choses qui ne se cachent pas. Mais dans cette résurrection de Jésus se trouve la résurrection de ta foi. Peut-être que tu croyais en Dieu. Maintenant, Jésus dit, il faut plus croire au-delà de ta petite foi de « je sais que Dieu existe, mais il faut enlever le « mais » parce que c'est l'occasion maintenant pour toi d'enlever le « mais ». Le « mais » n'a pas de place. C'est pourquoi dans le psaume 118, je crois, le psalmiste va te dire, il faut élargir tes cordages. Il faut affermir tes pieds. La maison que tu es en train de construire, ton projet, ta vie, il faut bien l'enraciner. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Parce que Jésus est ressuscité pour toi. Pour que toi, tu réussisses en toutes choses. Il y a une seule chose qui peut t'amener à avoir peur pour ne pas que tu termines. C'est le péché. Parce que c'est lui seul qui te conduit à la mort. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le péché, même son pouvoir est brisé. C'est que lui-même, il n'a même plus de force. Regardez, c'est le péché là, c'est notre péché là que Jésus a pris pour aller à la croix. Et c'est avec notre péché aussi qu'il est rentré dans la tombe. Et il a laissé le péché dans la tombe et lui seul, il est sorti. Et la Bible nous dit que dans sa résurrection, se trouve ta résurrection. Est-ce qu'il est ressuscité avec un péché? Pourquoi est-ce que tu vas avoir peur? Pourquoi est-ce que tu vas te dire, moi je sais que je suis tellement pécheur que c'est vrai, je viens à l'église, mais en fait de salut là, pour moi là même, on doit revoir. La manière dont j'ai blessé Dieu, j'ai tellement fait d'avortement, j'ai tellement fait ceci, la manière dont j'ai blessé Dieu, c'est pas sûr que Dieu... Pourquoi est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner? Qu'est-ce qui peut encore retenir l'amour de Dieu pour toi quand il a livré son fils pour toi? Ce qu'il a de plus cher, il te l'a donné. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? L'apôtre Paul dit, Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer de son amour? Il te dit simplement, si tu as cru, il faut confesser tes péchés. Il faut croire que lui te lave et qu'il te purifie. C'est ta foi qui est ton problème. Parce que tu en mets ta foi à vaciller. Il suffit qu'on entende quelque chose, toi tu prends ça pour la vérité et tu dis ta foi doit se baser sur cette vérité que toi-même tu t'es créée, qui ne vient pas de la parole. Et puis ça t'empêche d'évoluer. Tu es arrivé à un niveau où tu n'es plus un bébé spirituel. Parce que dans cette communauté, même les nouveaux qui sont à l'affermissement sont affermis. Ils connaissent qui est Jésus. Les enseignements qui sont donnés sont des enseignements pour amener l'homme à être enraciné dans la parole. Que rien ne t'effraie. Je vais te dire une chose. Tu ne pourras pas tout connaître de Jésus maintenant. L'apôtre Paul te le dit. Il dit, nous connaissons en partie. Donc, n'attends pas de tout connaître d'abord avant de te livrer totalement à lui. Le peu qu'il t'a donné de connaître, c'est déjà suffisant. De sorte que si aujourd'hui seulement il revient, il puisse te prendre avec lui si tu es fondé sur ce que tu as appris. Tu es déjà riche de la connaissance de Christ. Tout ce qu'il te demande, que tu rétablisses ta relation avec lui, lui le vivant. Il dit, j'étais mort et maintenant je suis vivant. C'est quel fantôme ça? J'étais mort, maintenant je suis vivant. Et puis il dit à Thomas, viens et touche, vois, mets ta main et crois. Et puis il dit à tous, heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Quelle bonne nouvelle. Bien-aimés, ce monde attend que nous chantions cela à tout bout de champ. Ce monde attend que nous prêchions cela. Ce monde attend que nous partageons cette bonne nouvelle à chacun. La créature tout entière soupire, n'est-ce pas? Après le témoignage, moi je peux le dire, après le témoignage des fils de Dieu. Et tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. L'enfer n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le retenir. L'enfer avec toutes ses flammes, tout son feu, n'ont pas pu le retenir. Ses flammes, son feu n'ont pas pu le retenir. Il est ressorti victorieux de là. Bien aimé, c'est de quelle maladie tu vas mourir et puis tu vas dire pour toi est fini. Puisque nous sommes tous venus pour mourir, il n'y aura pas quelqu'un qui vivra éternellement dans sa chair humaine. Ça n'existe pas. Notre chair humaine est poussière, elle retournera à la poussière. Nous sommes tous venus pour mourir. Mais nous sommes aussi venus pour vivre et pour vivre éternellement avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi que rien ne t'effraie. Je traversais la route et puis il y avait un véhicule qui est venu en trompe. Je n'avais pas fait attention. Et puis j'ai couru pour traverser la route, quoi de plus normal. Je traverse ma route et de l'autre côté, il y a un monsieur que je connaissais bien. Il me dit, tout le monde a peur de la mort, ils ont passé le même coup aussi pour traverser la route. Je lui ai dit, je ne veux pas me suicider, mon frère. Non, ce n'est pas que j'ai aussi peur de la mort. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, si le véhicule me renverse, ce n'est pas sûr que ça me tue en même temps. Je vais rester dans la maladie. Et puis, paralysé ici et là. C'est ça là. Je ne veux pas souffrir de ça. Et puis, même si ça me tue. Si je l'ai vu et puis je me suis laissé tuer, c'est que je me suis suicidé. Mais en fait, si ça me tue sur le champ, moi c'est ma fête. Parce que là, je suis auprès du Père. Donc, si tu veux, il faut t'arrêter. Ça va te tuer. Maintenant, Dieu va juger. Si tu l'as fait exprès, tu n'es pas auprès de lui. Si tu n'as pas fait exprès et que ta foi est fondé sur ton Seigneur, tu vas auprès de lui. Dieu, mais c'est là notre bonne nouvelle. N'ayons pas peur de la mort, car elle n'a pas de pouvoir sur nous. Nous sommes dans une période où on pourra parler de persécution, parce que ce n'est pas du tout loin de nous. ce qui va arriver n'arrivera qu'à notre chair. Ça va nous faire mal. Mais notre âme vivra auprès du Père. Parce que la mort ne pourra pas nous retenir. De la même manière dont elle n'a pas retenu notre Seigneur, de cette même manière, nous sortirons aussi vivants et victorieux de la mort. Mais bien encore, nos activités vont prospérer. Nos projets vont prospérer. Parce qu'il dit, élargissez vos cordages. Entreprenez, n'ayez pas peur. Entreprenez, vous êtes là pour entreprendre. Et Dieu doit être glorifié au travers de vos entreprises. Ce n'est pas le monde pécheur qui va donner gloire à Satan. Regardez, on se trouve dans un endroit et puis on va trouver 2, 3, 4 et puis au milieu on a une seule église dans un quartier. Moi je bénis le nom de l'Éternel pour les catholiques qui sauvent un peu notre nom. Eux ils sauvent un peu notre nom. Mais si on doit compter sur les méthodistes, nous on a encore envie de construire la tour de Babel. Tout le monde est dans la même église. Une fois que tu dis on va se déplacer ici, on dit donc toi tu viens pour diviser l'église. Mais les autres on les a remplis. Ce n'est pas pour eux, ils donnent gloire à qui? Toi tu dis tu sais le vrai Dieu, mais toi tu donnes gloire à Dieu comment? On dit voici des maisons qui sont construites, tout le quartier là appartient à qui? Et puis on trouve au milieu une seule maison d'un chrétien. Et puis quand on a une grande salle de la place. Comme si nous aussi on ne peut pas entreprendre. Les entreprises en Côte d'Ivoire appartiennent à un seul groupe. Et puis nous tous on fait j'ai l'honneur chez eux. On fait j'ai l'honneur. Mais ils vont prendre entre eux d'abord. Après, on va dire, tu trouves en bas, tu vas trouver Ouattara, après tu vas trouver Moussa, après tu vas trouver Aïssa. Mais si c'est eux la chose, ils n'ont qu'à venir te prendre. N'ayons pas peur d'entreprendre. Le monde nous appartient. Satan a menti. Il est allé jusqu'à dire à Jésus, il l'a placé au sommet de la montagne et puis il lui dit, tu vois, toutes ces richesses de ce monde, c'est pour moi. Prosterne-toi devant moi et moi, je vais te donner. Celui qui a créé sa chose, tu dis, c'est pour toi. Il a donné ça à l'homme, c'est l'homme qui n'a pas su gérer qui t'a donné. Mais ça lui appartient. Et il dit, si tu crois, tu persévères jusqu'au bout, il va te donner de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de son Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. De quoi est-ce que tu as peur? Est-ce que tu t'es agenoué? Tu as dit à ton Dieu, il t'a dit, attention, si tu es riche, tu n'iras pas au ciel. C'est ce qu'il t'a dit. Les gens nous ont blagué. Et nous sommes toujours en arrière. Mais il y a beaucoup qui ont compris. Par la grâce de Dieu. Le riche, il peut être riche matériellement, mais il peut être aussi riche spirituellement. Riche en donnant. Riche en apportant, riche en glorifiant son Dieu avec ce qu'il a. Vous croyez que parce qu'il a l'argent, Dieu va lui dire, bon, je vais peser en ton argent et puis tes biens que tu fais là, je vais voir que ton argent pèse plus, donc tu vas en enfer. On t'a dit que Dieu n'aime pas l'argent. Qui l'a créé? Qui a créé l'argent? La Bible dit, il est le maître de l'or et de l'argent. Donc lui-même, normalement, il doit être en enfer. Si le riche doit être en enfer, Dieu est le premier là-bas. Mais Dieu nous a donné la capacité. Et dans sa résurrection, nous devons comprendre cela. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher de lever nos têtes. Seulement, agenouille-toi. Dis-lui, Seigneur, voici ce qui est dans mon cœur que je veux faire. Cela vient de toi? Oui, cela vient de moi. Dispose donc des moyens pour moi. Où est-ce que je dois faire cela? À quel moment je dois le faire? À partir de quoi je dois le faire? Qui dois-je mettre devant? C'est toutes ces choses que nous ne savons pas faire. Nous nous levons et nous tombons dans la chose. Et puis bon, quand ces filles ont dit, Dieu, c'est Dieu même qui a fait. Et puis tout ça là, Dieu n'a rien fait. Dieu ne t'a pas dit d'être pauvre. Il veut simplement que tu composes avec lui. Compose avec lui et tu verras. J'ai appris l'histoire de Colgate, c'est vrai, c'est faux. J'ai appris l'histoire de Caterpillar, c'est vrai, c'est faux. Mais ce sont des gens qui ont su mettre Dieu devant. Et aujourd'hui, on entend leur nom partout. Il faut pouvoir mettre Dieu devant. Et puis ne pas s'entêter. Parce que quand il va te dire, je suis d'accord avec toi, je te donne tous les moyens, mais voici la mission que je te confie. Au début, tu seras content, tu vas sauter de joie parce que Dieu dit, mets tous les moyens. Quand tu vas finir, tu vas trouver que ça te prend du temps. Tu vas trouver que ça te prend les moyens. Tu vas trouver que les enfants de Dieu ne savent rien faire. Tu vas ramasser les autres pour mettre dedans. Fais attention. C'est toutes ces choses quand Dieu regarde. Ici, on dit, il a arrêté toutes ces choses par sa préscience. Il connaît nos cœurs. Il dit, il est le seul qui sonde les cœurs et les reins. C'est à partir de là. Donc, faisons confiance en notre Dieu. Mettons tous nos projets devant lui. Nos examens de fin d'année, mettons cela devant lui. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas étudier. J'entendais ce prêtre prêcher, il dit, quand quelqu'un a dit, il a son examen à passer, donc il est venu vers lui, il dit, mon père, faut prier pour moi. Le prêtre dit, mets-toi à genoux, je vais prier. Seigneur, s'il étudie, qu'il réussit, s'il n'étudie pas, qu'il échoue. Ah, mais si tu n'as pas étudié, notre Dieu n'est pas un magicien, ça il faut que nous le sachions. Il n'est pas un magicien. Donc, pendant que tu aspires au succès, il faut mettre tous les éléments à tes côtés. Parce que Dieu a mis à tes côtés tes parents qui t'assistent. Tu ne peux pas gâter le nom de Dieu, gâter le nom de tes parents. Il faut mettre tous les atouts de ton côté. La résurrection est pour toi. La résurrection, ce n'est pas seulement pour Jésus seul. Il l'a fait pour nous. La résurrection pour toi, dans tous les domaines de ta vie, tu es ressuscité. Il n'y a rien encore qui soit en retard, rien n'est caché. Il n'y a rien que tu dois aller faire des sacrifices pour avoir. C'est quel sacrifice? Christ a déjà payé le sacrifice pour toi. Le marabout m'a vu, il dit, bon, tu es élève. J'ai dit, oui, il dit, il va faire sacrifice pour moi, parce que ce qu'il attendait de moi, il n'a pas pu avoir. Et puis maintenant, il va dire, il va faire sacrifice pour moi, pour que moi je réussisse à mon examen. Je lui ai dit que tu veux faire quoi? Il dit sacrifice. J'ai dit sacrifice, il dit oui. Je lui ai dit moi, le seul sacrifice, Jésus l'a déjà fait pour moi. À la croix, il est mort. Et puis la mort ne l'a pas retenu, il est ressuscité. Toi-même, tu as besoin de ce sacrifice. Il me demande, tu es chrétien? Je lui ai dit, d'accord, merci beaucoup ma soeur, merci beaucoup. Et puis il est parti. Tu n'as pas à jeter des regards inquiets. Tu as tout à ta disposition dans la résurrection de ton Seigneur. Que tu ne te limites pas. Parce que Dieu n'a pas limité son pouvoir quand il devait faire sortir son fils de là. Il n'a pas limité son pouvoir quand il devait te sauver. Ne te limite pas. Ne limite pas non plus la main de Dieu. Tout est prêt pour toi. Tout. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que ta foi soit ravivée. Que son esprit te soit accordé. Qu'il enlève le voile qui t'est encore caché. Comme Esaïe le dit, sur cette montagne, il va enlever le voile qui cachait encore ses serviteurs. Qu'il enlève ce voile. Un festin de mets succulents t'attend. De grandes choses t'attendent. Sur cette terre, tu dois les réaliser pour la gloire de ton Dieu. Ne laisse pas le nom de ton Dieu être bafoué. Réveille-toi et mets-toi à l'œuvre. Notre communauté ici doit être remplie. Et nous devons sortir d'ici. Nous devons avoir notre champ de mission. C'est possible. C'est pour toutes ces choses que des formations sont données. C'est pour toutes ces choses que des temps de prière sont donnés. Et ça, par la résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est possible. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas.